Cinéma du Réel et du propose en juillet 2020 une programmation en plein air de films de la sélection française de la 42e édition du festival. Entretien avec Malak Matoug autour de son film La Fabrique des Monstres, mené par Pauline Rigal, cinéaste et éditrice de la revue Les Saisons. Malak Matoug est né en Allemagne en 1987. De par sa mère allemande et son père tunisien, il grandit entre ces deux pays et cultures. Il alterne des études de philosophie, d'art et de sciences humaines à Berlin, Paris et Düsseldorf, des métiers divers et des voyages à travers le monde. En 2017, il débute un travail de recherche filmique entre le Portugal, la France et l'Allemagne.
Bonsoir Malak.
Bonsoir Pauline.
Alors, pour parler de ce lieu et de cette fonderie, peut-être qu'on peut... J'aimerais t'interroger sur comment tu as rencontré ce lieu et ces personnes et comment est née l'envie de les filmer, de faire un film.
Alors, j'ai rencontré d'abord Maïke, qui est dans le film La fille du patron, qui est une amie que j'ai rencontrée au Brésil il y a quelques années. Et on se recroisait en France il y a 5 ans. Et là, il me parlait de cette usine de son père. Je ne savais pas qu'elle avait ce rapport avec le Portugal déjà depuis longue date et que son père avait une usine de bronze. Donc elle m'en parlait de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui se passait là-bas et surtout que l'usine allait fermer. Et du coup, j'ai tout de suite saisi une idée d'aller l'accompagner, voir qu'est-ce qui se passe dans cette usine et si on pourrait faire un film. Parce que pour moi, le Portugal était un endroit que je connaissais déjà depuis pas mal d'années, où j'avais déjà tenté de filmer des choses parce que je trouvais que c'était vraiment un endroit entre plein de cultures différentes, entre la Méditerranée, entre l'influence du Brésil et l'Afrique, et puis entre l'Europe et le catholicisme. Et puis du coup. Post-crise 2009, on sentait vachement cette crise financière au Portugal et une résilience de la population et une façon de faire que je trouvais super intéressant et que je voulais voir comment ça se passait du coup dans une usine.
Et, voilà. Et tu es arrivée avec cette amie qui travaille donc dans l'usine de son père et au moment où tu es arrivée, elle est venue travailler à nouveau dans cette fabrique.
Non, elle est la fille du patron et c'est ça son rapport, c'est sa fascination pour son père, pour quelque chose de son histoire personnelle, de son enfance qu'elle a passée au Portugal avec son père et elle avait surtout aussi cette fascination pour l'artisanat, pour la production des matériaux en bronze. C'était une usine, on va dans le film, c'est très terre à terre. Il y a des vieilles machines allemandes que le père a importées là-bas et qui marchent encore 50 ans plus tard. Et tout se fait à la main. Et je comprends cette fascination que je partageais et que je trouvais astucieux de la suivre dans cette redécouverte, en fait, de... En quelque sorte de la vie de son père. Et voilà, après, ça, justement, à ce moment-là, j'étais à la recherche de plusieurs écritures de films, de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux filmer. Et j'étais accompagné d'une production qui m'a vachement poussé dans cette voie-là, qui voyait une histoire là-dedans. Aussi parce qu'il y avait des personnages et un lieu et du coup on s'est lancé. Ouais.
Tu filmes avec beaucoup d'attention et d'attachement le savoir-faire manuel, ce dont tu parles là, comme si le film venait inscrire dans le temps et célébrer, parce qu'il y a beaucoup de joie, je trouve, dans ce film, une pratique ancestrale du travail manuel, du bronze et de la terre. Alors pourrait-on dire qu'il y a en jeu ici le fait de filmer le partage et la transmission? Je pense aux enfants sur la place avec leur père, la fille, justement, cette amie avec son père dans l'usine. Et le film serait comme un passeur de cette transmission-là.
Oui, oui, absolument. Mmh. Ouais. Oui, je pense que c'est d'abord un film sur la transmission, sur montrer, voir, regarder l'autre. enfin nous on regarde, mais je pense qu'on voit aussi l'attention que les autres autour mettent à regarder les gens qui font. Mmh. On voit ça dans l'usine, quand Maïke, la fille du patron, quand Maïke regarde les gens travailler, mais, et d'ailleurs, quand elle est accompagnée par eux, il y a un échange. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on n'est pas sur une histoire plate d'une usine, d'une exploitation ou d'une histoire comme ça, mais c'est plus compliqué. On sent une tension, je crois,
ouais,
je sais pas.
Absolument, ouais.
On sent une tension entre elle et ce monde-là. Mais voilà, elle est là. Et aussi, il y a les autres qui regardent aussi. Ouais.
Et alors, cette attention à leurs gestes et au travail quotidien comme ça, et à une complicité qu'il y a entre ces différents acteurs, personnages, comment toi, tu as envisagé le tournage et quelle temporalité tu as donné au tournage et au regard et à ta place là-bas ?
Moi, j'étais là, dans l'usine, j'étais sur place quand même pendant 3 semaines à filmer, en fait, toujours la même chose, parce que l'usine, elle tourne toujours autour des mêmes objets qu'ils fabriquent. Mmh. Après, je suis rentré un peu, pas frustré, mais c'était un moment de rencontre avec les gens, et il y avait quand même ces tensions, question de la fermeture ou pas, de cette usine, qu'est-ce que les ouvriers en savaient ou pas. Et moi, j'étais un peu entre les chaises et je ne savais pas trop comment gérer cette histoire-là. Et du coup, de fait, c'est devenu autre chose. Et c'est plus... en fait, j'ai pris mes distances par rapport à une écriture plus professionnelle accompagnée par cette boîte de prod. Et je me suis libéré de ça pour vraiment me plonger dans quelque chose que je voulais faire dès le départ, en fait, englober cette usine vraiment dans la vie qu'il y avait autour. Mmh. Ce que je disais tout à l'heure, par rapport à un réseau de solidarité qui existe au Portugal très fort, où les gens s'entraident, où les gens sont là, on sent la vie, je pense, c'est pour ça que quand plus tard j'avais l'occasion d'aller encore au Portugal pour d'autres choses et que je rencontrais des potiers et que je les filmais sur la place du village, c'était une évidence et ça durait que 10 jours, et voilà, je les accompagnais sur ce qu'ils faisaient là. Ils étaient invités dans un petit village, comme il y en a tant au Portugal, où il y a des festivals, où il y a des choses qui se passent en dehors du cadre professionnel, enfin tu vois, il y a d'autres désirs qui s'expriment là-bas, et tant mieux. Et c'est ça que je filmais, c'était une super rencontre. Et en fait, quand j'étais là, j'ai tout de suite su que ça pourrait être comme une réponse à cette usine. On se dirait presque que c'est les mêmes gens. Souvent, quand j'avais montré des premiers montages à des gens, à mes amis, il y avait comme une confusion. Est-ce que c'était vraiment les mêmes gens qui travaillaient, du coup, le jour, la nuit, sur la place, dans la fabrique? Et en fait, j'aimais bien jouer, du coup, avec ça, de me dire... en fait, c'était deux villages, en plus, qui étaient pas loin l'un de l'autre. Donc... et socialement parlant, enfin, tout était là pour se dire, en fait, on peut être tout à fait fendeur la journée et le soir, on fait la petite poterie sur la place pour les enfants.
Mmh. Mmh. C'est comme ça que je l'ai perçu. Pour moi, c'était une évidence qu'il y avait une sorte de trouble de temporalité. Mais pour moi, c'était les mêmes hommes, les mêmes personnes puisque c'est des hommes en l'occurrence. Mmh. Sauf cette femme qui est la fille du patron, mais sinon qui travaillait le jour dans l'usine et ensuite la nuit qui inventait ces monstres. Mmh. Pour moi, c'était les mêmes. Et alors, il s'agirait peut-être de rendre visible donc, ce travail-là et la production gratuite de formes imaginaires et subjectives et le récit qui devient à ce moment-là collectif. Et donc, comment tu viens de répondre un petit peu, mais as-tu pensé cette double temporalité de la fabrique et du travail parce que c'était pas un hasard. Est-ce que quand tu l'as cette la création de ces monstres,
ouais.
Est-ce que c'était une une chance heureuse comme ça, quand tu as pris connaissance de ce lieu et de cette usine. Non, tu as écrit le film dans cette double temporalité de...
Non. Non, pas du tout. Je l'ai, j'ai filmé les deux choses séparément.
D'accord.
Et c'est ensuite que je les collais ensemble.
D'accord.
Jusqu'à ce que ça marche.
Ah bah ça marche très bien parce que j'avais... C'était une évidence pour moi. Que... Ok. Très bien. Et il y a une importance, tu donnes une importance très forte aux matières, à la glaise, au bois, au charbon, à la poussière, à l'argile. Et le film commence avec un nuage de poussière, traverse un nuage de fumée, des volutes de vapeur et finit avec la terre séchée et peinte de ces monstres posés sur des tables. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une vraie traversée des matières, une mise en récit des matières au long du film ?
Oui, je pense. Oui, je pense pour moi, les matières, c'est un film qui existe qu'avec les gestes et la matière que les gens manient. Oui, il y a toujours un call and response, quelque chose de cet ordre-là, qui s'imbrique.
Mmh.
Ouais. Parce que c'est pas vraiment un film très narratif où on pourrait dire il se passe quelque chose d'une découverte ou je sais pas quoi, une histoire quoi.
Mmh.
C'est plus on suit un travail qui se fait et du coup c'était une façon en fait de lier les matières et du coup lier les gens à ce qu'ils font et pour moi c'était aussi un film finalement de montrer une liberté qu'on peut prendre en fait en faisant les choses ou pas. C'est cette question là qui m'intéressait dans l'usine de départ, c'est cette question de questionner le travail et questionner le travail dans ce qui les rapports de force s'expriment aussi pour moi à travers les objets qui sont sur place. Et les matières, en fait, il y a une espèce de logique qui s'impose. Comment penser une usine autrement ? La poterie, c'est une façon de montrer, en fait, qu'il faudrait détourner une usine à quelque chose qui donnerait d'autres choses. En fabriquer alors des monstres et plus des objets qui sont pour la pièce maritime, en fait. C'est parce que si on veut faire des pièces pour la maritime, d'une certaine façon, on doit... mettre en place une chaîne d'assemblage, on doit produire ces machins, on doit les dessiner, on doit les mettre dans du bois, ensuite dans la résine, ensuite dans du sable, ensuite le sable va accueillir le bronze et ainsi de suite, on va peaufiner l'objet. Et il se trouve qu'on a décidé à travers les siècles de le faire en exploitant les gens et en les mettant chacun à son place, à sa place. Et c'est là aussi où il y a une rupture, parce que Maïke, qui vient se balader dans l'usine parce qu'elle est la fille du patron, elle fait ce qu'elle veut et elle fait tout. Et en fait, elle ne fait pas tout, elle s'est laissée aider par ici, par là. Et on voit bien que les gens, ils sont assignés à une place et en fait, ils font d'autres choses aussi à côté. Ils sont tout à fait capables de faire d'autres choses.
Mmh.
Et du coup, ils prennent aussi là une liberté. C'est cette liberté-là qui peuvent se trouver au sein de l'usine. Et en contrepartie, le soir, la liberté est tout autre. On peut faire tout ce qu'on veut. Et du coup, ça met aussi en place une joie, une autre ambiance que je trouve chouette. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de vie aussi dans cette usine, que les gens... sont contents dans leur vie, qui font des belles choses que j'ai pas pu filmer, mais qui existent. Et ils font beaucoup de fonderie quand le patron est pas là.
Ah oui.
Oui, je pense qu'ils s'amusent bien. Mais quand ils doivent produire, et c'est assez hardcore, hein, c'est-à-dire que là, on a tourné en avril. En avril, ils sont dans un créneau d'horaire où ils bossent de 8h à 13h, ils ont une heure de pause et ensuite ils bossent jusqu'à 16h. L'été, pour un peu raccourcir la chose, ils commencent à 6h et ils bossent jusqu'à 13h sans pause. Et juste, on voit, enfin, parler d'usine, c'est un petit garage un peu plus grand. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est une fabrique, je ne sais pas. Et du coup, ils ont une grosse porte. Et en avril, il fait quand même assez froid, il y a du vent, c'est de l'Atlantique. Et du coup, au début, la porte, elle reste fermée parce qu'il fait trop froid le matin à 8h. Puis à un moment donné, on lance la fonderie, du coup ça monte jusqu'à 1000 degrés derrière, au fond. Mmh. Et ben on ouvre la porte et du coup on tombe malade parce qu'en fait il y a les deux chaleurs qui se mélangent. Mmh. Et voilà, donc on fait avec ça. L'été, j'imagine même pas comment ça se passe. Enfin, la première fois que j'étais dans cette usine, c'était l'été, en juillet. Et c'était, il faisait hyper chaud. Donc les gars, ils sont là toute l'année. Et cet endroit leur donne donc du coup beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations. Le feu, la matière, tout ça, ça se manie d'une certaine façon. Et on voit les libertés qu'ils prennent dans ce qu'ils portent peut-être. Mais ça c'est un leurre, je veux dire. Ils prennent très peu de précautions sécuritaires, casques, etc. Souvent ils sont juste à l'œil nu devant le feu. Ils mettent le bronze dans les moules. Et en même temps c'est ça leur rapport peut-être pour rendre soutenable la chose. Et voilà. Donc pour moi, c'était aussi beaucoup... Je voulais trouver un axe de parler d'une usine aujourd'hui, comment parler d'une usine, évidemment c'est cette fascination pour l'endroit en lui-même, mais aussi pour le travail, pour cette situation de subordination, d'exploitation qui existe dans le lieu de travail, quel qu'il soit d'ailleurs. Et en même temps, je me voyais pas faire un film qui interroge les gens et qui se base sur quelque chose de dénoncé et de je pense qu'on a besoin de sentir les choses et de les voir par nous-mêmes et de les mettre en perspective. Ensuite pour moi le parallèle avec la poterie, elle marche bien parce que les gens on les sent tellement à l'aise et tellement libres et tellement ailleurs que forcément ça ouvre l'imagination par rapport à cette usine. Mais là aussi il faut bien voir que au final les gens se mettent à travailler une matière, la terre, et que peut-être aussi ils se prennent une plus grande liberté en se limitant des objets avec lesquels ils vont travailler. C'est-à-dire que au début on voit ce monsieur travailler un bout de terre sur une tour classique, mécanique et pas électrique. Et du coup, en fait, c'est en se limitant des objets techniques que peut-être on peut regagner un peu d'espace, de liberté, de manœuvre, quoi. C'est français ce que je dis. Oui.
Après les deux premiers plans du film, justement, il y a une citation d'Adorno, extraite de Minima Moralia. Et je cite la fin de la citation. « C'est le superflu qui peut survivre comme un noyau d'expérience car il ne s'épuise pas dans l'instant. » Alors, il y a ça, donc, dans La fabrique des monstres, rendre visible la part restante et ce qu'elle convoque donc au cœur de l'expérience humaine, ce dont tu parles là. Et le geste documentaire, comme le four fabriqué qui cuit la terre, donc, dans le film, serait comme une empreinte du réel sur le vif. Et alors, comment as-tu pensé le superflu, le hasard et cette matière restante?
En fait, comme je viens de dire, c'est le superflu, il s'invite dans les deux endroits, mais je pense que c'est dans cette distinction-là que je voyais cette phrase. Et moi, j'aime beaucoup Adorno. Moi, j'ai grandi un peu en Allemagne. C'est une expression un peu courante de dire "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." Ce qui veut dire en anglais "There's no right life in the wrong one." En français, la traduction est un peu difficile à cause de cette moralité de right and wrong, de dire bon, il n'y a pas de vie juste dans un monde qui ne l'est pas. Je pense que c'est la traduction. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et c'était un peu trop plate et trop de mettre ça au début de film, et je pense à côté. Mais ce que je trouve, mine de rien, assez drôle, c'est que je cherchais quelque chose dans Adorno, parce que je savais qu'il y a une façon de mettre aussi des choses des uns à côté des autres, sans qu'il y ait vraiment un lien de parenté, on va dire. Et que, il se trouve que moi, je mets une usine de bronze à côté des gars qui travaillent la terre un peu artisanale sur une place. Et cette phrase que je mis, elle vient tout juste après cette fameuse phrase sur la vie juste. Et c'est juste la phrase d'après, presque. Et du coup, je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose de cette réflexion sur un monde juste qui, dans cette réflexion sur l'expérience et le superflu.
Et alors, pourrait-on dire que le film est une métaphore de l'art documentaire, c'est-à-dire des monstres qui sont faits à la main, qui peuvent brûler, qui peuvent ne rien donner du tout d'ailleurs, un geste qui se fait une fois dans une communauté. Et je pense à un entretien d'Andreas Labarthe qui parle de l'art du cinéma comme l'art du miracle, en opposition à l'art de la maîtrise. Et là, d'un côté, il y a la manufacture de pièces à la chaîne, même si elles ne sont pas identiques. Et de l'autre, le miracle de la création de ces monstres qui sont branlants et parfois qui tiennent très bien et qui sont comme ça, qui tiennent. Et donc, le miracle serait monstrueux, là. Et un hasard de comment ils sont advenus, qu'ils existent même, un hasard non reproductible.
Oui. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Tu veux dire que le documentaire soit miraculeux dans ça?
Oui, dans la façon dont tu as pu attraper comme ça ces gestes, dont tu as pu noter, prendre sur le vif, recueillir leurs gestes, leur travail, comme ça.
Mais je suis assez admiratif. Je suis assez admiratif des cinéastes qui arrivent à choper des moments comme ça et qui tournent très peu. Il se trouve que moi, c'était pas le cas. En tout cas, dans l'usine, je filmais beaucoup. Et en fait, on écrit quelque chose et après, on écrit peut-être aussi parfois trop. Moi, je me suis trouvé un peu enfermé dans cette usine, que je savais que ça me suffit pas comme film et que la matière elle va pas assez loin. Et que parfois il faut, dans le documentaire, je pense qu'il faut beaucoup suivre la situation et parfois les produire ou être au bon moment. Et là, il se trouve la poterie. C'était une belle rencontre. Moi, j'étais dans ce festival, j'ai rencontré ces gens-là et on a tout de suite eu quelque chose que je me suis presque immédiatement mis à les filmer, et c'était hyper chouette. Et voilà. Donc oui, ça c'était un peu miraculeux. Je pense que ce truc il tient tout seul presque aussi. Ouais. Ils sont hyper touchants et du coup c'est quelque chose qui demande du temps. On filme et on filme encore et à un moment donné on va trouver quelque chose qui vaut la peine, quoi.
Ouais, parce que du côté des monstres il y a une grande allégresse et presque aussi une urgence à les faire exister, et il y a la construction de ce four et tout à coup ils existent et ils se retrouvent et c'est très festif et joyeux. Et avec aussi avec cette chanson à la fin comme consécration, comme ça enfin on peut les voir sortir et naître, alors qu'il y a quelque chose peut-être de plus rigoureux, silencieux, solitaire dans la fabrique, dans l'usine.
Oui, et je pense que c'est là aussi où c'est pas comparable. Quand on travaille on est obligé de s'y mettre, alors que là, on est entre amis et on peut faire ce qu'on veut.
Mais du coup, dans l'appréhension de les filmer, c'est effectivement des gestes et des temps différents, j'imagine. Que cette impulsion comme ça, de la poterie et ces hommes qui, en fait, sont là depuis des années et continuent à travailler.
Oui. Oui. Je pense que c'était plus difficile pour moi aussi de les faire sortir de leur quotidien, on va dire, et de l'autre, de saisir les moments où justement ils s'échappent, parce que ils sont tellement minimes, en fait. Enfin, voilà, on filme beaucoup toute une journée et on se demande pourquoi on filme. Et au moment où on arrête, il y a quelque chose qui se produit et du coup, on ne l'a pas dans la boîte. Et il faut dire aussi que les conditions dans l'usine, c'était assez compliqué avec la caméra, avec la technique. La caméra, elle avait hyper chaud, donc les batteries ne tenaient pas, je n'avais pas les bonnes batteries. Tout ça, ça s'ajoute et ça crée énormément de problèmes. On a eu chaud et du coup on a raté aussi plein d'occasions de filmer des choses, des belles choses et qui sont pas dans le film. Ouais, c'est comme ça.
Oui, c'est comme ça. Peut-être tu veux dire quelque chose du film.
Non, je pense que j'ai bien parlé. Ouais.